Network, je ne sais plus, enfin bon, vous tapez Radio Libertaire. Vous avez l'agenda, l'ensemble des émissions, les podcasts disponibles 12 mois après fin de diffusion, et vous pouvez également les télécharger en format MP3. Voilà, comme je vous le disais, c'est une émission... Oui, pardon, excusez-moi, il faut absolument que vous nous souteniez. Vous allez sur le site de la radio, vous téléchargez la souscription et vous donnez ce que vous pouvez. On a toujours besoin de votre soutien, de votre support pour maintenir une radio de qualité et d'entretenir le matériel, car évidemment... Comme tout, ça s'use. Voilà, c'est parti pour la suite. Donc ce soir, peu de nouveautés. Nous allons nous consacrer sur le magnifique coffret de Lee Morgan, dont je vais vous parler dans un instant. Mais en termes de nouveautés, je reviens sur l'album Shadow du pianiste Gaël Rakotondrabe, pas facile à dire, qui est sorti dans la collection For Musicians Only, qui était sorti le 17 novembre dernier, en trio avec Raphaël Chassin à la batterie et Laurent Verneret à la contrebasse. Et donc nous allons écouter deux titres, un qui s'appelle Smoke Gets in Your Eyes, donc la fumée vient dans tes yeux, un vieux standard de chez Standard. Et alors là, c'est de la petite surprise, en piano solo, réharmonisé de manière très très intelligente, le Because de l'album des Beatles Abbey Road de Lennon McCartney, donc ce Because, et là il le joue quasiment comme un nocturne de Chopin, c'est tout à fait malin, c'est très bien fait, il y a beaucoup de sensibilité, et donc voilà, je vous recommande vraiment cet album qui est sorti en novembre dernier, donc voilà, il est encore d'actualité. C'est parti. Thank you. Jazz Libre 89.4 sur Radio Libertaire et également en DAB+. Hein, je vous le dis, la nouvelle norme numérique nous a été attribuée, donc c'est important de le signaler. Alors, nous allons maintenant aborder le fameux coffret en public au Lighthouse à Hermosa Beach en Californie de 1970 du quintet de Lee Morgan. Mais avant, on va quand même donner quelques mots sur Lee Morgan et sur son destin tragique, et c'est vraiment assez terrible. Il est né en le 10 juillet 1938 et il est mort en le 19 février 1972, quasiment un anniversaire. Il avait seulement 33 ans, et en 33 ans, même pas en 33 ans, il a commencé sa carrière très tôt, parce que c'est Dizzy Gillespie qui lui a donné son premier job en 1956, donc il était très jeune. Il a enregistré, à l'heure actuelle, on en compte au moins 110. Il y en a 31 sous son nom, 25 sous le groupe des Jazz Messengers d'Art Blakey, évidemment, parce qu'il a fait partie de ce groupe pendant de nombreuses années, et 54 autres avec d'autres musiciens. C'est vraiment une discographie extrêmement impressionnante, et vraiment, c'est tout à fait dommage qu'il soit mort si tôt. D'ailleurs, on n'a aucune idée de savoir jusqu'où il aurait été ou ce qu'il aurait pu faire. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était au Slugs, une boîte de New York, où, entre deux sets, il s'est engueulé avec sa femme en lui disant qu'il allait la quitter, donc elle n'a pas supporté et lui a tiré dessus. Mais il n'est pas mort tout de suite, c'est absolument terrifiant parce que il était seulement blessé, et je pense qu'il aurait pu être sauvé. Simplement, il neigeait ce jour-là très fort. Il y avait une très forte neige à New York. L'ambulance a mis énormément de temps avant d'arriver, et il en fait, il est mort de perte de, il a perdu tout son sang, et donc voilà, ça s'est terminé de cette manière tragique. Ça a été un vrai séisme, parce que Lee Morgan était vraiment un musicien très doué. Il était vraiment cette nouvelle génération post-bebop. Un des plus doués, après Clifford Brown. Je ne vais pas du tout minimiser les autres, il y en a tellement de Miles à Dizzy, mais il avait vraiment cet esprit, voilà, aventureux. Il a joué avec des musiciens, vraiment, il a joué, en fait, pour tout dire, avec tous les musiciens modernes de son époque, notamment Blue Note. Il a joué avec Wayne Shorter, c'est lui qui joue également dans le Blue Train de John Coltrane, quand même. Il a joué avec Hank Mobley, il a joué avec Art Blakey et les Messengers, j'ai déjà dit, mais il a participé à des disques importants comme la musique du film Les femmes disparaissent, ou Les liaisons dangereuses avec Barney Whelan, pour dire quand même. Il a joué avec Curtis Fuller, avec Jimmy Smith, avec Wayne Shorter. C'est même lui qui a fait le casting de Wayne Shorter pour remplacer le ténor dans l'orchestre de Jazz Messengers. Voilà, pour dire. Il a joué avec Jackie McLean, avec Clifford Jordan, avec Andrew Hill, avec Dizzy, puisque c'est lui qui l'a sorti qui lui a donné son premier job. Il a joué avec Tyna Brooks. Alors voilà, un altiste bien oublié, et c'est fort dommage, avec Buddy Don Franco, le clarinettiste, avec Art Farmer, avec Benny Golson, avec Griffin, avec Joe Anderson qui démarrait, avec Ernie Henry, c'est pareil, lui aussi un altiste bien oublié, avec Freddie Hubbard, avec Elvin Jones, le batteur de Coltrane, avec Philly Joe Jones, bon, c'était un peu normal, parce qu'ils étaient de Philadelphie tous les deux, avec Quincy Jones, vraiment hallucinant, avec Wynton Kelly, avec McCoy Tyner, avec Larry Young également. Bon, c'est vraiment très, très impressionnant. Et donc, ce musicien, en fait, a commencé très très tôt. C'est sa sœur aînée qui l'a poussé à faire de la musique. Au départ, il voulait jouer du vibraphone, mais il s'est très vite comment trouvé une affinité avec la trompette, et c'est elle qui lui a offert sa première trompette. Après, il s'est mis à jouer également du bugle. Alors le bugle, vous savez, c'est le tuba soprano, hein. Bon, voilà, ça a un son beaucoup plus doux et soyeux que la trompette, qui est un instrument que j'aime beaucoup. Voilà un petit peu pour faire le portrait d'ensemble de Lee Morgan, qui vraiment a été coupé dans son élan pour une histoire de jalousie. Et là, je peux dire que, bon, bref. Donc, de tous ces disques, celui-ci, le coffret, avait été sorti en 3 CD en 1996. À noter quand même, si un point important que je voulais vous dire, c'est que beaucoup de sa discographie personnelle, des disques ont été enregistrés par exemple en 1964 et ne sont sortis qu'en 1980, c'est pour dire hein, vraiment. Donc, Infinity par exemple est sorti en 81 alors qu'il a été enregistré en novembre 65. Pareil pour Sonic Boom qui était enregistré en 67 et sorti seulement en 79. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc, en public au Lighthouse que nous allons écouter était sorti en 3 CD en 96. Et Zeffelmann, dont je n'arrête pas de vous faire les louanges, a retrouvé 8 CD complets de toutes ces sessions absolument géniales. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard comment dire, sur les circonstances de l'enregistrement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Juste quelque chose de très important, c'est que, comme toujours chez Zeffelmann, vous avez un livret de plus de 60 pages avec des interviews des musiciens de l'époque, dont Jimmy Merritt, l'entretien qui est publié dans ce livret, Jimmy Merritt qui est le contrebassiste, qui a joué aussi également avec les Messengers. Enfin, il a joué aussi avec tout le monde, est mort 3 mois après. C'est pour dire que, voilà. Donc, je vous donne juste la liste des musiciens et ensuite nous reviendrons sur un certain nombre de choses importantes à savoir, sur ce coffret. Il y a donc Lee Morgan qui joue de la trompette et du flugelhorn, c'est-à-dire le bugle, hein, comme je vous l'ai dit. Et il y a l'incroyable Benny Maupin, au ténor, à la flûte et à la clarinette basse. Alors évidemment, on s'est enregistré en 1970, en juillet 70, hein, il y a beaucoup de sessions. Et Benny Maupin va être embauché tout de suite après par le sextet d'Herbie Hancock. Je vous ai dit une bêtise hein, sur le site de la radio. Après, il a effectivement fait partie des Headhunters. Et d'ailleurs, je trouve, en écoutant ces faces qui sont absolument incroyables, que Herbie Hancock l'a un tout petit peu sous-employé, je trouve. Il a joué aussi avec Andrew Hill, je crois que j'avais dû vous en passer un morceau. Bref, peu importe. Mais bon, voilà, c'est un peu dommage, je trouve que Herbie est un peu sous-employé, Benny Maupin, parce que vraiment, là, le travail qu'il fait est absolument sidérant. Il y a Harold Maburn au piano. Il y a donc Jimmy Merritt à la basse. Alors c'est une basse électrique, c'est une Ampeg basse. Donc ça a une tête de contrebasse normale, mais c'est épais comme une boîte d'allumettes à peu près. Et Mickey Rocker à la batterie. Mickey Rocker qui a joué notamment dans cet album sublime de Miley Williams qui s'appelle Free Spirits dans les années 70. Un des derniers disques de Miley Williams avec également... le bassiste qui s'appelle aussi Buster Williams, voilà, Buster Williams. Et donc, c'est un quintet absolument sidérant qui est quasiment aussi télépathique que peuvent l'être, qu'a pu l'être les faces, le quintet de Miles avec Hancock, Shorter, et donc, qui lui date de 1965, on a à peu près le même feeling télépathique, une énergie absolument incroyable, des morceaux très longs dans leur intégralité. Enfin, c'est vraiment un boulot absolument superbe. Et la musique, elle est, bah, vous allez voir, 50 ans après, même un peu plus de 50 ans après, elle reste d'une actualité, mais d'une folle actualité. C'est à la fois rigoureux, à la fois complètement dingue, c'est par moments complètement free. Et en même temps, ils savent toujours où ils vont. Enfin, c'est le son, en plus de l'enregistrement, la captation est absolument magnifique. Dernière information avant d'aller plus loin, le propriétaire du Lighthouse s'appelait Howard Rumsey, c'est un contrebassiste de la West Coast qui a joué avec tous les West Coasters, je vous en ai parlé pas mal, et qui était extrêmement célèbre. Et je crois que le club réouvre de temps en temps et c'est de nouveau dédié à la musique. Voilà, nous allons commencer par un extrait du premier titre du premier CD, donc c'est le vendredi 10 juillet 1970. Le titre s'appelle The Beehive. The Beehive, c'est la ruche. Hein, composé par Harold Mabern, le pianiste. Voilà, c'est parti. Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. Alors, je pense que vous avez vu que voilà, hein, ça envoie du bois, comme on dit vulgairement. C'est redoutable. Voilà. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'un pianiste comme Harold Mabern n'est pas du tout passé à côté de la modernité, et on sent dans son jeu une inspiration très clairement de McCoy Tyner avec ce travail sur les cartes. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais en tout cas cette main gauche, cette pulsion, cette espèce de spiritualité. D'ailleurs, Jimmy Merritt, dans l'interview qui est publié dans le livret, parle vraiment de musique sacrée. Hein. C'est vraiment à chaque fois, toujours, on est dans cette espèce de, comment dire, de spiritualité du jazz. Il n'y a aucun problème. Alors, je vous ai choisi, j'ai fait un choix. Choisir, c'est renoncer, comme vous le savez, évidemment. Mais j'ai choisi des thèmes composés par tout le monde, hormis The Sidewinder, parce que The Sidewinder, qui a été le tube de Lee Morgan, je vous l'ai passé la dernière fois que j'ai fait un petit focus sur cet album, je vous ai passé le tube Sidewinder. Donc voilà. Mais je vous ai pris des thèmes composés par Benny Maupin, par Harold Mabern et Jimmy Merritt notamment, parce que avec aussi une répartition des instruments, notamment pour Benny Maupin, qui lui joue de la flûte également et de la clarinette basse. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. Et donc il y a plein de documents intéressants dans le livret, et notamment ils disent que ils se sont préparés 6 mois. Alors en fait, Lee Morgan, qui était comme beaucoup sous l'addiction de la drogue et tout ça. Sa femme, qui l'a tué malheureusement, elle avait pris soin de lui. Enfin, c'est vraiment très contradictoire. Bon, ce pays est contradictoire, mais là, c'était vraiment une histoire particulièrement bizarre. Et donc, il a construit ce groupe avec ses musiciens qu'il avait choisi vraiment spécifiquement 6 mois avant. Et comme il était en pleine réhab, comme on dit, c'est-à-dire qu'il commençait à se repréparer, à arrêter de boire, de fumer, enfin tout ça, ils se sont préparés pour l'enregistrement de l'ensemble de ces livres. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser une chose, il y a des annonces de Lee Morgan que je ne vous ai pas proposées, mais si vous faites l'acquisition de ce coffret, que je vous recommande, hein, c'est vraiment un indispensable, c'est un album Île déserte, hein, je vous le dis comme je le pense. Et il dit que voilà, c'est un événement particulier parce que y a l'enregistrement. Et c'était d'ailleurs assez compliqué parce que l'ingénieur du son n'était pas visible. Il était dans une petite pièce à l'étage alors que la scène était en bas. Enfin bon, voilà, c'est un phare, hein, donc c'est petit, c'est rond, etc. Et donc ils se sont préparés un peu comme des sportifs pour les Jeux Olympiques. Et donc ils étaient arrivés en pleine forme. Et ça se sent. Vraiment, là, il y a aucun problème. Et donc. Non seulement préparation physique, mais aussi préparation mentale. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et il faut noter une chose, c'est que Lee Morgan a enregistré évidemment en public beaucoup de choses, mais jamais sous son nom. Et donc, en fait, cet album, ces 8 CD, ce coffret, est le seul album où il est en tant que leader en public. Et c'est aussi pour cette raison que ça a son importance. Il y a également un témoignage de son neveu qui s'appelle, j'ai plus Richard, je sais plus quoi, Cops, qui raconte ses histoires. Et il disait qu'avec sa sœur, donc avec la sœur de Lee Morgan, Ernestine Morgan Cox, qui était organiste et qui chantait, quand Lee Morgan venait la voir, la visiter, en fait, ils faisaient toujours le bœuf tous les deux à la trompette. Elle chantait, elle jouait du piano. Et puis donc voilà, ça restait une famille de musiciens. Donc c'est tout à fait incroyable. Alors on va continuer là avec un autre titre composé par le pianiste Harold Maberne qui s'appelle I Remember Brit, qui est un inédit. Hein, j'ai dit que celle, il y a eu 3 CD qui étaient sortis dans les années 80, en 96 je crois. Et celui-ci fait partie des inédits. Alors, vous allez reconnaître tout de suite le début de la mélodie, hein, c'est très simple, ça s'appelle Les Frères Jacques. Voilà, donc ils avaient envie de faire cette espèce de petit clin d'œil à la France, sans doute. Et bah, après, ça part dans les grandes largeurs, hein, et grandes hauteurs. Voilà. Donc, le titre s'appelle I Remember Brit, et on est toujours le vendredi 10 juillet. C'était un extrait du deuxième album de ce coffret. Thank you. Jazz Libre Radio Libertaire, donc 89.4 et DAB+. Alors, j'avais choisi évidemment le précédent titre parce que Benny Maupin jouait de la flûte. Et donc là, nous allons l'écouter. Ah oui, juste, oh, j'ai complètement oublié de. En fait, je me suis trompé, le prénom du neveu de Lee Morgan s'appelait Raymond Daryl Cox. Voilà. Donc, nous allons continuer avec un autre titre tiré du troisième CD, toujours le 10 juillet 1970, avec un deuxième titre qui est issu du troisième disque, du troisième CD. Donc, on est toujours le 10 juillet, le vendredi 1970, et le titre qui a été composé par Benny Maupin, s'appelle Néophilia. Et donc celui-ci n'a jamais été publié, puisqu'il y avait une première publication, un peu d'une sélection fine des meilleurs, sur les trois CD qui étaient parus en 96, pardonnez-moi. Mais donc celui-ci fait partie des inédits, et donc Benny Maupin joue de la clarinette basse. Et néophilia, ça c'est une sorte de néologisme qui veut dire les admirateurs de la nouveauté. Voilà. Et donc, en fait, Benny Maupin, qui témoigne aussi, raconte qu'il était, je ne sais plus, dans le train et que l'inspiration lui est venue comme ça sur le fait d'aimer la nouveauté. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en 70 et que la tournerie rythmique, c'est-à-dire contrebasse, batterie, dont d'ailleurs... tous disaient que cette rythmique entre Mika Rocker et Jimmy Merritt était vraiment une Rolls-Royce. Hein. C'est-à-dire que ça tournait comme une locomotive. Ils étaient, Benny Maupin dit, jouer avec des mecs comme ça, c'était vraiment une grande chance. Et il y a dans cette tournerie quelque chose qui me fait penser au groupe Magma. C'est-à-dire qu'en fait, Magma, je pense qu'il s'est... Enfin, Christian Vander n'a jamais caché qu'il était admirateur d'Elvin Jones et qu'il a trouvé beaucoup de son inspiration dans Coltrane, etc. Mais y compris dans Magma, on retrouve un certain nombre de patterns, de boucles comme ça, qui sont un peu inspirés. Je pense que y a quelque chose quoi qui était dans l'air à cette époque, puisque Magma a été créé en 69, hein, donc il a commencé avec ça. Voilà. Alors là, c'est peut-être un peu capillotracté ce que je vous dis, mais prenez-le comme c'est. Et, voilà, entre l'inspiration, ce qui se fait, ce qu'on se trouve dans l'air, voilà, cette pulsion un peu de cette musique comme ça, un peu spiritualiste, hein, voilà. Et donc là, ce que fait Benny Maupin à la clarinette basse, bah, c'est furibard. Je ne vous dis que ça. C'est parti.